Je suis très content d'être ici parce que j'ai appris que je vais pouvoir déposer mon CV à la RTBF, vu le budget qu'a un programme par rapport à France Inter. Nous qui étions déjà contents à France Inter, là-bas, si j'y suis, c'est 300 000 euros à l'année pour une heure d'émission par jour. Et déjà, pour nous, c'était énorme. Mais quand je vois le budget, ils sont forts, ces Belges. Et puis, je suis aussi content d'être là parce que je suis ni régulateur et je suis ni chercheur en infocom. Et quand j'ai vu la question accompagner, encadrer les radios, j'ai posé cette question à des collègues journalistes. Et ça va peut-être vous surprendre ou pas, mais la plupart de ces collègues, excusez-moi d'être vulgaire, se foutent en fait de cette question. C'est-à-dire, ils sont journalistes d'un média et ils disent, oh, c'est pas mon problème, c'est le problème de mon patron. Et moi, d'être régulé ou pas, c'est pas mon souci. Moi, je fais mon métier. Alors ça, c'était pour notamment France Inter et radios de service public. Et j'ai posé la même question à mes copains des radios associatives. Et effectivement, vous imaginez que la réponse est différente. C'est-à-dire, eux disaient, mais c'est essentiel pour nous. Et après, quand j'ai vu l'intitulé « Par les gens pour les gens », j'ai compris que pour qu'il y ait régulation, et loi, il a fallu aussi que ces combats-là, pour revenir sur la radio de combat, soient posés. Et oui, parce qu'avant qu'il y ait régulation et qu'il y ait loi, il faut qu'il y ait eu revendication de ces choses-là. Et le paysage radiophonique français, mais j'imagine le paysage radiophonique belge, n'aurait rien été s'il n'y avait pas eu ces combats-là, et les régulations et les questions qu'on se pose aujourd'hui n'auraient pas eu lieu s'il n'y avait pas eu ces combats-là. Donc ça, c'était un peu la petite intro que je voulais poser. Je ne vais pas refaire le copier-coller, parce que c'est à peu près la même chose, hein, c'est-à-dire mai 68, on l'a appelé le « mai de la parole ». Donc il y a eu vraiment les révolutions de 68. Puis il y a eu ce mai de la parole où on disait l'ORTF ment, l'intox à domicile. Enfin, en gros, la radio était l'ennemi. Hein. Et justement, il faut se poser cette question de l'ORTF. Alors l'office, alors à chaque fois, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais je vais vous le dire tout de suite. C'est l'office de radiodiffusion télévisée française. Je ne sais pas ce que ça veut dire, parce que c'est la préhistoire. En même temps, c'est 45-75, donc c'est quand même hier. Je vous parle de l'ORTF parce que je ne reviens pas sur ces radiocombats. Par contre, il y a un combat en France qui a fait qu'on en arrivait là. C'était la lutte contre le monopole de diffusion, cette ORTF. Et donc, il y a eu plusieurs combats des radios libres, ce qu'on appelle les radios libristes ou les radios pirates. Pour rajouter aux terminologies, on se posait la question des radios associatives communautaires. Avant, elles s'appelaient comme ça, libres ou pirates. Et si ces radios n'avaient pas tous les mêmes objectifs, et j'y reviendrai, elles en avaient quand même un, c'est démanteler le monopole d'État et de dire stop à cette parole officielle qui vient du haut, qui vient de la politique, libérons la parole. Et donc, ce combat est mené et il amène que le 6 janvier 1975, on démantèle l'ORTF. Donc ça, c'est très important dans ce combat. Et puis, deux ans après, le 10 mars 1977, il y a un événement aussi qui va être important, c'est Brice Lalonde. Alors, les Français connaîtront et peut-être que vous connaissez, c'est un homme politique français qui est candidat écologiste aux législatives. Et en 1977, à Antenne 2, en 7 de France 2, il annonce en direct la naissance de Radio Verte, qui est une radio écolo. On parlait sur les combats nucléaires, etc. Et en fait, c'est du bluff, hein, parce que Radio Verte, elle va émettre une demi-heure, de 19h à 19h30. Mais c'est un bluff qui va créer un buzz, comme on dirait aujourd'hui, phénoménal. Parce qu'en plus, Radio Verte ouvre tous les jours, ouvre cette demi-heure avec « Les Français parlent aux Français », vous savez, ce message de Radio Londres. Donc là, c'est le bazar total, parce que certains se disent « Mais oui, cette radio-là a servi à libérer un pays, un continent ». Et là, on nous le resserre, donc certains vont se poser la question de ce pied de nez. Et la première réponse de la loi et de la régulation en France, c'est la sanction. Puisque le 27 juin 1978, face à ce pied de nez, le gouvernement de Raymond Barre décide de réagir Et il prévoit une loi qui fait que si on émet comme ça de manière pirate, on est passible d'une amende de 10 000 à 100 000 francs et puis un an d'emprisonnement en cas de non-observation du monopole de diffusion. Alors, peut-être que Francesco sait mieux que moi. Je crois qu'il n'y a pas eu de prison, mais il y a eu des amendes. Mais en tous les cas, je ne pense pas qu'il y ait eu de personnes emprisonnées. Donc, cette contestation des radios pirates, la réponse, c'est vous n'êtes pas légitime, sanction. Alors, je passe sur les radios d'expression locale, les radios de combat, etc. Et on arrive à peu près dans les mêmes fourchettes qu'ici. 1981-1986, c'est la chute du monopole d'État. Parce que... Où est-ce que j'ai mis ça ? Oui, parce que... juste, excusez-moi, je fais un aller-retour. Après 78, après le 27 juin 78, il y a le 28 juin 79. Et ça, c'est une autre réponse à la sanction. C'est une réponse symbole de François Mitterrand sur Radio Riposte, qui fait cette riposte, qui dit « si je suis élu président de la République, je libère les ondes ». Donc, il fait ça, il s'engage à cela. Alors, ne soyons pas naïfs, il y avait du clientélisme de la part du candidat Mitterrand. C'est-à-dire, il savait qu'en disant ça, il allait s'adjoindre une très bonne partie d'électorat. Et il y a eu aussi du pragmatisme, parce qu'il sait très bien que, de toute façon, cette question doit être tranchée et que la réponse est plutôt dans la libération des ondes. Donc 81-86, c'est la chute du monopole. Comme il l'a promis, Mitterrand libère les ondes. Et ce qui est très intéressant, c'est que depuis ce matin, les gens qui parlent de libération des ondes, on dit libéralisation des ondes à chaque fois. Et c'est très intéressant parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand les ondes sont libérées, en fait, elles sont rapidement libéralisées. Et ça, c'est un glissement qui va faire qu'on est dans ces 30 années de radio et qu'on se pose les questions aujourd'hui, et notamment ces questions économiques, ces questions de numérique, etc. Donc, je vous passe vite fait, hein, parce que les lois de 81 à 86, il y en a beaucoup. Bon, je parle quand même du tournant décisif de 84, avec justement de la libération à la libéralisation, puisque 84, c'est la légalisation de la publicité. Et ça, ça va faire exploser le spectre radiophonique, parce que chez les personnes qui voulaient libérer les ondes, il y a des personnes qui se sont glissées dans le mouvement pour faire en sorte que des radios privées émergent et faire de l'argent aussi là-dessus. Hein. Et puis, il y a d'autres qui se sont sentis trahis, comme la radio Carbone 14 à Paris, qui, elle, a refusé de répondre aux critères. Et puis, rapidement, 86, la loi Léotard, dite loi de la liberté de communication, qui est aussi fondatrice en France, puisqu'elle consacre l'existence d'un secteur de l'économie sociale de la radiodiffusion en France. Et à la suite de ça, alors un peu comme ce que tu as dit, c'est-à-dire vont s'accompagner des commissions de régulation. Avant de s'appeler le CSA, il y a la Commission nationale de la communication et des libertés, qui deviendra la haute autorité, qui deviendra le CSA. Donc cette loi autorise également la constitution de réseaux commerciaux qui auront le droit en 1994 de couvrir jusqu'à 150 millions d'auditeurs potentiels, et on imagine ce que ça veut dire aussi en recettes publicitaires. Et puis on va arriver à ce cas particulier, même si le FACRE, si j'ai bien compris, a été créé dans les années 90-94. La loi de 86, elle va aussi poser quelque chose qui fait que vous avez vu le tableau des 600 radios par rapport aux autres, qui est un peu, je sais qu'à Bruxelles, c'est difficile ces temps-ci de dire ça, mais l'exception culturelle française. Mais comme Barroso est à Zagreb, je me permets de le dire. Parce qu'en 86 est créé le FSER, le Fonds de soutien à l'expression radiophonique. Alors, je ne vais pas être chauvin, il n'est pas unique au monde, ce modèle, mais en tous les cas, il est très... Il fait qu'il y a une telle pluralité, une telle vivacité des radios en France. Encore une fois, je vous ramène à ce schéma. Alors moi, pour les derniers chiffres, je ne sais plus qui avait mis le schéma. Moi, j'ai 643 radios associatives en France. Mais bon, on est dans les mêmes fourchettes. C'est plus proche que dans les Je crois que c'est 643. Hein. Enfin, moi, c'est ce que j'ai vu au dernier sur le site de la SNRL, le Syndicat national des radios libres. Et donc, ce FSER, il permet à ces radios, grâce à la taxation des recettes publicitaires des radios commerciales et de services publics, de voir verser chaque année des subventions pour leur permettre de vivre. Que ce soit en fréquence grandes ondes ou en ultra courtes. Alors, pour revenir aussi sur les chiffres des 2100 salariés des radios A en France, j'ai pris ces derniers chiffres pour vous montrer aussi, comme le disait Francesco, de la puissance du lobby, si j'ose dire, des radios associatives et donc de ce que ça va amener dans les combats futurs sur la régulation et sur les questions numériques. C'est que si je prends la France métropolitaine et les collectivités d'outre-mer, les radios associatives, c'est 5800 salariés, dont 800 journalistes, sur 3450 fréquences partagées. Donc vous voyez que c'est énorme. Par exemple, 800 journalistes, si on dit que les radios associatives sont une espèce de fédération, c'est largement plus que la rédaction de France Inter, à laquelle j'appartiens, par exemple, puisqu'à France Inter, il y a, selon les jours et l'émission, entre 450 et 500 journalistes, ce qui est déjà énorme. Mais vous voyez que si on considère que les radios A se fédèrent, elles ont un poids journalistique et salarial qui est au moins équivalent à France Inter. Or, on a compris depuis ce matin que dans les représentations et dans les poids, forcément, France Inter a beaucoup plus d'impact que ces radios-là. On parlait des Suisses, alors je n'ai pas fait le calcul et je suis très mauvais en maths, donc vous me direz si c'est plus ou moins, mais en tous les cas, j'ai pris les chiffres de 2012 du fonds de soutien à l'expression radiophonique reversé aux 643 associatives de France. C'est quand même 29 millions d'euros distribués. Alors, j'en sais rien, mais c'est énorme. Hein. Et c'est réparti sur trois tranches budgétaires. Je conclue. Trois tranches budgétaires, l'aide dite sélective, l'aide relative à l'exploitation et l'aide à l'équipement technique. Parce qu'on voyait qu'il faut des moyens humains, qu'il faut des moyens techniques et qu'il faut aussi des moyens salariaux. Le FSER permet cela. Je conclue vite, mais c'est important parce que on en parlait ce midi. S'il n'y a pas de salariés, il n'y a pas de structure. S'il n'y a pas de structure, on est amateur. Si on est amateur, la parole qu'on porte n'est pas très importante. Et si elle n'est pas importante, ça se dilue. Et si ça se dilue, ça meurt. Et en gros, ces radios meurent. Ce qui fait qu'elles ne meurent pas en France, c'est qu'elles sont professionnelles. Vous mettez des guillemets, mais elles le sont quand même. Et cette professionnalisation est notamment due à ces 29 millions qui ont été reversés. En 2012. Et je termine là-dessus parce que je disais que s'il n'y avait pas eu ces gens-là, il n'y aurait pas eu ces régulations et ces lois. Aujourd'hui, ces personnes, on ne les entend pas, mais en France, elles portent. Et on verra demain en quoi elles portent sur le débat numérique, puisqu'il y a des fédérations. On parlait tout à l'heure de l'importance de la fédération. Beaucoup de fédérations non seulement portent le combat du numérique RNT, mais de la radio par IP, mais je vous expliquerai demain comment elles le portent si concrètement, puisque en mai 2010, à Nantes, a été mis pour la première fois la diffusion en un été en norme DAB+, si je ne me trompe pas. Et on verra que c'est très important dans le débat actuel, mais ça, c'est pour demain. Merci.